Radio Classique.
Ça fait assez longtemps que je me dis, aïe aïe aïe, un jour il va bien falloir qu'on parle de Marco Polo. Eh bien ça y est, nous y voilà. Pourquoi aïe aïe aïe? Parce que ceux qui me suivent depuis des années savent que j'ai fait un certain scandale en défendant les thèses de Francis Hood qui expliquaient que Marco Polo n'a jamais mis les pieds en Chine. Alors, j'en dirai un mot, parce que je peux pas m'empêcher, j'en dirai un petit mot de ça tout à l'heure, mais on va déjà raconter l'histoire telle qu'elle existe et telle qu'elle est enseignée et telle qu'elle est dans tous les livres. C'est-à-dire l'histoire du plus extraordinaire des voyages du Moyen-Âge, mon cher Gérald.
Bonjour Franck, oui, on a rendez-vous aujourd'hui avec deux personnages
oui,
absolument...
Oui, d'ailleurs, il y a l'autre, il y a Christophe Colomb aussi.
Bien sûr, deux personnages extraordinaires, des destins qui vont... d'une certaine façon, changer le cours de l'histoire de l'humanité. On peut le dire, hein. C'est Marco Polo, Christophe Colomb, d'abord ça nous fait rêver. Alors, ils auraient pu réussir leur vie de mille façons, parce que c'est des créatifs, c'est des gens, c'est des personnes extraordinaires. Alors, on va dire qu'ils ne voulaient pas le confort d'une vie, on va dire, traditionnelle ou classique. Ils voulaient découvrir le monde. Et l'un et l'autre vont y parvenir en repoussant les frontières, on va dire, de l'imaginaire, peut-être même de l'impossible. Alors, notons au passage que Christophe Colomb était subjugué, littéralement, par le livre des merveilles, dont on va parler tout à l'heure.
C'est le lien entre les deux. S'il n'y avait pas eu Marco Polo, il est très probable qu'il n'y aurait pas eu non plus Christophe Colomb.
Grand leader, les leçons de l'histoire avec Franck Ferrand et Gérald Kersanti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents. whoz.com.
En 1298 a lieu une bataille navale très importante entre la République de Venise et celle de Gênes. On se bat sur les eaux à coups de galères et de bombardes. Et il se trouve que ce sont les Génois qui l'emportent. La bataille de Curzola est perdue. Et voilà que l'un de ceux qui avait armé deux galères pour la République de Venise se retrouve en prison. Il va se retrouver, alors quand on dit en prison, entendons-nous, hein, il s'agit d'un très riche bourgeois de Venise, donc on ne va pas le coller dans un cul de basse-fosse, mais disons qu'il est aux arrêts, dans une résidence surveillée, et dans cette résidence se trouve un certain nombre d'hôtes de prisonniers de prestige, et parmi eux, un grand écrivain qui a traîné sa bosse à la cour d'Angleterre, à la cour de Bourgogne, qui a écrit des romans de chevalerie, d'aventure, des romans fantastiques comme on pouvait les aimer à cette époque au XIIIe siècle, des romans qui à l'époque ne bénéficient pas de l'imprimerie, il n'y a pas encore d'imprimerie, hein, donc ce sont des livres qui sont recopiés à la main, vous imaginez, les tirages sont très faibles. Cet auteur, c'est Rustichello de Pise, et il va, en parlant avec le seigneur Marco Polo, puisque c'est lui dont il s'agit, il va apprendre que ce seigneur a fait de très grands voyages, qu'il est allé très 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 loin à l'est, jusqu'au Cathay, comme on disait, jusqu'à la Chine, figurez-vous, et qu'il a été pendant 20 ans le proche de l'empereur mongol de Chine, Kublai Khan. C'est le début de cette extraordinaire aventure qu'on va appeler le devisement du monde, et en français le livre des merveilles, qui sera, après la Bible, le livre le plus reproduit, justement le plus copié de cette période des 13 et 14e siècles, vous imaginez, et même jusqu'au 15e siècle, jusqu'à l'impression, jusqu'à l'imprimerie comprise. Alors, ce livre raconte comment, et je vais être rapide sur le sujet, je vais laisser Gérald nous montrer quelles sont les qualités de chef, de dirigeant et d'explorateur de Marco Polo, mais ce livre raconte comment le jeune Marco Polo, voyant revenir de grands voyages son oncle et son père, Niccolo et Matteo Polo, a finalement décidé de repartir avec eux. Il se trouve qu'ils avaient, lors de leur premier voyage, rencontré Kublai Khan, le chef de la horde mongole, qui était en train de conquérir la Chine, et que Kublai Khan leur avait demandé de lui ramener une centaine de savants chrétiens pour pour éventuellement convertir la Chine au christianisme. Et donc, ils vont partir non pas avec une centaine, mais avec deux malheureux émissaires du Vatican, qui les laisseront tomber, d'ailleurs, qui les abandonneront en route. Ils feront le voyage jusqu'à Kambalik, et de Kambalik, ils iront jusqu'à la cité interdite. Enfin, ils vont rencontrer le grand Khan, qui est devenu donc empereur de Chine et fils du ciel. Très déçu de voir arriver les deux Vénitiens sans la horde de savants qu'il leur avait demandé de lui amener. Et finalement, c'est parce que Marco avait eu le temps, pendant son long voyage de 2 ans et demi, qu'il l'a fait passer jusque par le désert de Gobi, c'est parce qu'il avait eu le temps d'apprendre la langue mongole, qu'il a su se faire apprécier de Kublai Khan, dont il est devenu
capter son attention.
Il est devenu son conseiller, puis son ambassadeur, puis même, semble-t-il, son ami. Et ça a été pendant 20 ans une aventure tout à fait extraordinaire qui lui a permis de découvrir toutes les richesses d'un empire, pour ne pas dire d'un univers, dont on ne soupçonnait quasiment rien dans l'Occident de l'époque. Il y a eu quelques voyageurs, me direz-vous. Bon, on pourrait peut-être en dire un mot d'ailleurs, mais on connaissait très très mal ce monde chinois. Et de retour donc, parce qu'après 20 ans, il va accompagner la petite princesse Kokashin jusqu'à la cour du roi de Perse. Et puis de Perse, on va repasser par Constantinople. Et avec Niccolo, avec Matteo, les trois polos seront de retour dans une Venise dubitative, puisque lorsque Marco racontait ses histoires, on le soupçonnait d'en ajouter beaucoup, et on l'avait surnommé Il Milione, le type qui en fait des millions. Et d'ailleurs, quand vous allez aujourd'hui voir la maison natale de Marco Polo, vous allez à Venise sur le petit Campo dei Milioni. Voilà ce que l'on peut dire. Sans être trop, je crois que là, j'ai été parfaitement présentable dans ma description. Non, on doit pouvoir dire ça.
On peut le dire. On peut le dire. Alors, on peut dire aussi que Marco Polo, ben, c'est un leader inspirant. Si on en cherche un, eh bien, le voilà. Il a su générer, à son époque, mais après, bien sûr, de la passion, de la curiosité. Difficile de tracer un portrait, d'ailleurs, de ce Marco Polo. Nous sommes au XIIIe siècle et cet homme nous parle de son odyssée qui va le mener des portes de Venise jusqu'aux confins de la Chine, comme tu l'as dit tout à l'heure.
Ouais, il est né en 1254 et mort en 1324. Donc, on est vraiment sur la fin du XIIIe. En tout cas, la période chinoise, c'est la fin du XIIIe.
Du XIIIe siècle, effectivement. Et ça va surtout, comme tu l'as dit aussi, l'amener à devenir l'homme de confiance, on peut l'appeler comme ça, de l'empereur mongol Kublai Khan, qui est empereur de Chine. C'est le petit-fils de Genghis Khan,
oui, voilà.
Tout le monde connaît. Et tout cela va être traduit dans ce fameux livre des merveilles, que tu l'as dit, Devisement du monde. C'est une description du monde et de son étrangeté. Alors ça dit beaucoup de choses. C'est un récit qui est très enlevé, il y a des accents poétiques, et ça va influencer les grands explorateurs, notamment Vasco de Gama et Christophe Colomb. Il faut savoir que sur l'exemplaire de Christophe Colomb, il va la noter de 366 notes. C'est absolument incroyable. Ça veut dire que c'était vraiment son livre de chevet. Alors ce livre, en fait, aurait peut-être même dû s'appeler le livre du Grand Khan. Parce qu'en réalité, il raconte d'abord et surtout l'histoire du Grand Khan, qui est le centre et l'unité même du livre. C'est une sorte de condensé. Alors ça, c'est intéressant en termes de leadership, parce que Marco Polo, finalement, ce qu'il raconte dans le livre, c'est toutes les histoires qu'il pouvait témoigner, parce qu'il avait fait des voyages incroyables, et il les racontait à l'empereur. C'est une sorte de reportage, c'est-à-dire que finalement, c'est un conteur, certainement, mais il a inventé avant l'heure ce qu'on peut appeler le storytelling. C'est parce que c'est ce qu'il a fait, finalement.
Je ne vais pas dire le contraire.
Alors, il décrit la Chine, le papier monnaie, l'existence du Japon, dont on ignorait totalement l'existence, mais aussi l'emploi du charbon, les procédés d'extraction de l'amiante. Enfin, c'est un livre qui est quand même... Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Et pourquoi? Parce que c'est d'abord un observateur attentif, un observateur du monde. C'est aussi, d'ailleurs, au passage, un aventurier. Alors, c'est un polyglotte. Il parle plusieurs langues. Tu as parlé notamment du mongol. Il maîtrise plusieurs systèmes d'écriture. Alors, moi, je crois qu'avant toute chose, Marco Polo, peut-être même sans le savoir, avait une âme d'ethnologue. Pourquoi? Parce que il a une sorte de sensibilité sur la notion de la diversité des sociétés. C'est-à-dire qu'il croit fondamentalement à un monde pluriel. Ça rejoint un petit peu. Il place pas du tout sa culture au-dessus de celle des peuples qu'il découvre. Et en cela, il est très proche d'Alexandre le Grand. Alors, il parle de légendes, dans son livre et dans ses récits. celle de Gog et Magog, par exemple, que tout le monde connaît, mais aussi de l'arbre sec. Alors l'arbre sec, ça marquerait la limite entre l'Orient et l'Occident. Ce serait aussi le point précis où aurait eu lieu la confrontation entre Darius III et Alexandre le Grand. Ça nous ramène à l'épisode 1 de la saison 1 de Grand Leader, les leçons de l'histoire. Et sans qu'on sache vraiment si c'était la bataille d'Issos ou la bataille de Gaugamélès, mais en tout cas ce serait le point.
Oui.
Alors l'ethnologue est quelqu'un de curieux, d'intéressé, d'attentif, c'est un optimiste par nature, et c'est exactement ce que je crois être le personnage de Marco Polo, mais c'est également ce qu'en pense Pierre Racine, l'historien Pierre Racine, qu'il décrit comme un homme d'une curiosité universelle, observateur attentif des mœurs et des coutumes des hommes. Alors en dépit de son succès, du succès de son livre, qu'on appellerait aujourd'hui un best-seller, hein, clairement.
C'est le grand best-seller de l'époque.
C'est le best-seller de l'époque. On le considérait, au moment où il est sorti, quand même plutôt comme un récit assez fantaisiste.
Ben oui, réalité. Objectivement. Il y a plein d'animaux fantastiques, etc.
C'est ça. Et il faudra, en fait, ce sera bien longtemps après sa mort, qu'il deviendra une sorte d'ouvrage de référence, notamment pour la cartographie, notamment.
Mais parce qu'il ouvre, ce livre ouvre l'esprit des gens et repousse leurs horizons.
L'imaginaire.
On va y venir tout à l'heure avec Christophe Colomb, mais effectivement, Vasco de Gama, etc., un certain nombre de grands navigateurs, les fameux conquistadors de l'époque des grandes découvertes, comme on disait pour parler de ces immenses migrations de l'Europe vers le Nouveau Monde au XVIe siècle, vont s'inspirer de cet état d'esprit. Mais faut-il pour autant dire de Marco Polo qu'il a été un grand observateur? Certes, mais enfin quand même, il n'évoque nulle part la Grande Muraille de Chine. Il ne parle pas de la nourriture de base de la population Han, c'est-à-dire du riz. Il ne parle pas des baguettes que l'on utilise. Il ne parle pas, il y a même pas d'allusion aux femmes aux petits pieds, par exemple, qui sont d'habitude tellement, qui intéressent tellement les...
C'est vrai que ces points sont surprenants.
Oui, mais il y a beaucoup de choses. C'est donc Frances Wood, qui était la directrice du département de sinologie de la British Library, avait fait une liste de 40 grandes lacunes dans ce texte. Et s'il n'y avait que les lacunes, mais il y a par exemple tous les noms des villes sont en persan. Lui qui dit qu'il a passé 20 ans en Chine, pourquoi n'appelle-t-il toutes les villes chinoises que dans leur nom persan? Il ne connaît pas les noms chinois. Et il parle par exemple à plusieurs reprises des temples au toit d'or. Or, les temples au toit d'or, ce sont les temples japonais, certes, mais il n'y a jamais eu de temple au toit d'or en Chine, etc., etc. Donc, tout ça a pu faire dire à certains qu'il avait certes été une sorte d'ethnographe, mais un ethnographe qui, dans les comptoirs extrêmement orientaux que possédait sa famille, notamment sur la mer Caspienne, aurait pendant des années recueilli les témoignages, les récits de nombreux voyageurs qui arrivaient d'un peu partout, notamment de Chine, et que ce serait sous la plume de Rustichello de Pise que tout ça serait devenu un grand voyage. Est-ce que le voyage qui a inspiré les navigateurs et les conquistadors serait à l'origine, j'allais dire, une imposture? Ça mérite quand même d'être posé comme question, non?
C'est un débat éternel, je pense. On va dire que...
Et du point de vue du leadership, d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi un leadership de la... De la fantaisie ou du...
Ou
de l'imaginaire.
Mais oui, puisque finalement, le leader, c'est quelqu'un qui inspire, qui doit amuser quelque part, qui doit créer un environnement qui fait rêver, quelque part.
Mais c'est un inspirateur,
Marco Polo. Puisqu'on parle de rêve, et je le dis, on peut le prendre sous forme de boutade, mais ça ne l'était pas, son père et son oncle vont fonder finalement ce qu'on peut appeler une des premières start-up internationales.
Absolument, oui. Alors, son grand-père avait commencé déjà. Hein.
Alors pourquoi? Parce que les start-up qui réussissent de nos jours sont celles qui savent sortir de leurs frontières d'origine et aller conquérir le monde. C'est-à-dire qu'ils sacrifient beaucoup de leur vie personnelle, ils donnent beaucoup. Et c'est exactement ce que vont faire à la fois le père de Marco Polo, Niccolo, et son oncle Matteo, en quittant Venise avant la naissance de Marco Polo pour s'adonner au commerce, notamment des pierres précieuses. Alors, leur chance finalement, elle va résider en un point précis, c'est que Constantinople, qui est alors la capitale de l'Empire latin, va être prise par l'Empire de Nicée. Alors là, il faut trouver un nouveau débouché. Alors ils vont s'établir sur le petit comptoir de Soldaïa, sur les bords de la mer Noire, et ça va leur ouvrir plein de choses, notamment ils vont rencontrer justement l'empereur Kublai Khan, qui va leur proposer le monopole de toutes les transactions commerciales entre la Chine et la chrétienté, mais en échange de quelque chose. En échange, tu le citais, de l'envoi d'une centaine de savants, d'artistes, parce qu'il veut découvrir, il a soif de découvrir le monde occidental, mais le monde chrétien, parce que ça l'intrigue et il veut être instruit. Alors le problème, c'est que quand ils reviennent en Italie, il n'y a plus de pape. Et il faudra attendre quasiment 2 ans avant l'élection d'un nouveau pape, Grégoire X. Et en fait, quand ils vont repartir, comme tu le disais, ils vont pas repartir avec ce que demandait l'empereur. Alors ils vont emmener quand même de l'huile sainte de Jérusalem, qui tenait lieu en fait de reliques du Christ. Alors c'est à partir de là que leur start-up va vraiment prendre corps. C'est une affaire de business, hein. Les membres de la famille Polo deviennent des riches, très riches négociants. Ils se spécialisent dans le commerce avec l'Orient. La voie est toute tracée et ça va les amener aux confins du monde. Alors, il y a une autre dimension dans ce voyage. Alors, cette autre dimension, la première, c'est que quand ils empruntent la route de la soie, ils y vont en tant que commerçants, indiscutablement. Mais il y a aussi ceux qui disent, mais finalement le pape aurait vu, dans ce qu'on appelait les peuples tartares à l'époque, une possible alliée face à la menace grandissante islamique, et finalement il serait peut-être arrivé là-bas avec un rôle aussi d'ambassadeur.
À moins que ce ne soit l'inverse, qu'il n'ait été en quelque sorte missionné par la
papauté,
Mongols,
dans le sens-là,
pour devenir un peu des ambassadeurs de la Mongolie
de
conquérante
dans l'Occident.
Exactement.
Possible. Massimo Borlandi voit en tout cas dans le Livre des Merveilles, d'abord et surtout, lui, un marchand qui écrit pour un public de marchands. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que Marco Polo ne fait absolument pas référence en aucune façon à cette notion d'ambassadeur ou de rôle politique ou dans le domaine religieux. Mais c'est vrai qu'on peut se dire que certainement qu'il y avait quelque chose qui dépassait le seul enjeu économique et commercial.
Et qu'il y avait une volonté aussi de séduire le lectorat. Et ça, c'est le travail de l'auteur, c'est le travail de Rusticello. C'est ça qui va peut-être éveiller...
Formidable écrivain, d'ailleurs.
Mais voilà. Et qui va éveiller les consciences, qui va créer, susciter des vocations, dont celle de Christophe Colomb. Alors, ce Christophe Colomb, évidemment, lui, il est beaucoup moins mythique, si je puis dire. Il appartient déjà à une période beaucoup mieux documentée. On connaît tout de sa vie, ou presque. Quand je dis tout, ça commence mal, puisqu'on ne sait pas où il est né. Certains disent à Savone, d'autres à Gênes.
Il y a beaucoup de débats là-dessus.
Oh là là, moi, je ne me risquerai pas sur le sujet. Alain Decaux, d'ailleurs, avait écrit un très très beau texte sur les origines très complexes.
Sur ses origines aussi, il y a beaucoup de
sur ses origines juives ou pas, etc. Bon. Et ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il va finir par conquérir de nouveaux territoires, de nouveaux horizons, pour le compte des Espagnes, comme on disait, avec ses deux caravelles, la Pinta et la Niña, et puis sa carac, c'est-à-dire grand navire amiral, la Santa Maria. La traversée de Christophe Colomb, elle est très célèbre. Hein, ils sont partis, ces gens-là, de Palos de la Frontera, le 3 août 1492, une année énorme, fondamentale. C'est le grand basculement 1792, avant même la découverte du nouveau continent, du nouveau monde. On part le 3 août et on arrive donc, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, le Columbus Day, comme disent les Américains, c'est-à-dire le 12 octobre de la même année. Il y a quelqu'un qui, là-haut, dans le mât de vigie sur la Santa Maria, a crié « Ah, terre, terre !» Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était grand temps. Et j'aime beaucoup cette pièce de Claudel, hein, qui s'appelle Christophe Colomb, où l'on voit ce que c'est pour un leader que de tenir tête à un équipage qui ne croit plus en lui, qui ne veut plus aller plus loin, qui lui dit « on fait demi-tour ».
C'est un formidable exemple. Hein.
Alors là, on peut dire qu'on est dans le leadership pur, non ?
Pur, absolument. Alors si Marco Polo, comme on l'a dit tout à l'heure, était un observateur enthousiaste par excellence, il a rejoint finalement la start-up de son père et de son oncle, je disais, Christophe Colomb est quant à lui le profil d'un entrepreneur type. C'est un entrepreneur. Il est très concret, hein. Il est dans la réalisation. Il se fixe d'abord des objectifs qu'il veut tenir, coûte que coûte. C'est la caractéristique première du leader, hein, la persévérance. Mais aussi, il a une vision. La vision, c'est ce qui structure même à la fois le créateur et le leader, et la sienne peut s'exprimer simplement. Il est persuadé qu'il existe un autre chemin pour atteindre les Indes par l'Ouest. Et il veut découvrir ce nouveau monde d'une autre façon. Alors, c'est un homme, on peut le dire, d'imagination et de fulgurance, un génie pour beaucoup de personnes. Bon, aussi, si on veut décrire le personnage, un hableur, un mythomane pour d'autres.
Et puis, complètement animé par la soif de l'or, qui littéralement l'aveugle.
Et le fascine. Alors, il a aussi une très haute opinion de lui, et puis de sa destinée. Alors bon, d'une certaine façon, c'est plutôt bien, parce que ceux qui ont une idée de leur destin, finalement, réussissent à accomplir des choses exceptionnelles. Il est totalement subjugué par ce fameux livre des merveilles. Ça a changé quand même beaucoup de choses. Ça lui a donné cette envie, cet appel de la mer, un rêve de lointain, et il est curieux de tout. Alors, dire qu'il ne lâche rien, c'est peu. C'est quand même, on disait qu'il était persévérant, mais il lui faut d'abord trouver des moyens financiers. Alors, il va s'adresser aux puissants souverains catholiques d'Espagne. Mais ça n'a pas été si simple, il a fallu qu'il s'y reprenne à plusieurs reprises. Et puis finalement, en 1492, il va obtenir ce qu'il veut, l'aventure de sa vie va commencer. Alors là, on arrive à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à bord, les choses au début c'est le rêve, tout va bien, on part à bord des bateaux et tout va bien. Et puis après, il faut faire face aux nombreuses avaries, aux intempéries, changement de cap, pas le sien, parce que le sien il est clair, mais celui de ces bateaux, de ces caravelles.
Et les caravelles dont on parle, alors c'est vrai qu'elles ont maintenant le gouvernail des tambours, qu'elles ont enfin il y a eu des révolutions, notamment
des
la boussole
essentielle. Des innovations essentielles.
Mais néanmoins, les caravelles en question, ça reste des espèces de gros sabots, ce ne sont pas des navires on est vraiment encore au 15e siècle, ne l'oublions pas, ce sont des navires médiévaux.
Ça se manie pas comme ça, et lui, bien, il va falloir qu'il adapte sa stratégie à ses objectifs, et surtout, il va falloir, comme tu le disais, qu'il maintienne le moral des marins. C'est le propre d'un leader et d'un manager.
Ça, je trouve ça passionnant.
Parce que au bout d'un moment, les marins, il a fallu les rassurer, les encourager. Il faut innover en permanence parce qu'ils s'impatientent. La fatigue est là, le manque de vivre, le manque d'eau, très important, le manque d'eau douce, bien sûr, qui amène les hommes à la limite de la mutinerie. Et c'est là que l'art du management prend corps. Alors ça, c'est formidable. Alors c'est un entrepreneur infatigable, Christophe Colomb. Il a une vraie résilience. On n'a pas parlé souvent de la résilience, et pourtant, en termes de leadership, c'est un élément fondamental.
Et qu'est-ce que c'est, alors, en deux mots? Parce que ce nouveau mot, là, tout le monde ne parle que de ça, mais je suis pas persuadé d'avoir bien compris de quoi il s'agit.
La résilience, c'est face aux difficultés, des chocs qu'on peut recevoir. Alors, c'est très intéressant quand on teste des véhicules automobiles, par exemple, on va les projeter contre un mur pour voir comment le véhicule résiste. Eh bien, la résilience d'un individu, c'est sa capacité à résister aux chocs auxquels il doit faire face. Et comprendre ses erreurs de jugement. Et lui, il va le faire et il va créer par là même. Ça va lui permettre de créer auprès de son équipage une sorte de sentiment d'appartenance. Pourquoi ? Parce que il y a une sorte d'apprentissage individuel et collectif qui se fait. En clair, il apprend ses erreurs, mais il les communique aux autres dans une forme d'humilité. Donc finalement, son personnage en tant que leader est assez instructif. Alors, il faut donner du sens, bien sûr, il faut communiquer, il faut galvaniser, il faut questionner, mais attention, sans jamais donner le sentiment d'être dépassé. Et une force intérieure, il en avait, une force de conviction sans pareil. Christophe Colomb était certainement, de ce point de vue, un modèle.
Oui. Alors, c'est un modèle très, très discutable par ailleurs pour sa moralité quasiment absente, disons les choses. Il a menti à tout le monde. Il a menti à la Casa de Contratación. Il a menti à la monarchie espagnole. Il a menti qu'ensuite, quand il devient gouverneur, il commet d'incroyables exactions. Il ment à tous ses subordonnés. Parce qu'il n'y a pas un voyage de Christophe Colomb. Il y en a deux, puis trois, puis quatre. Et le troisième voyage, il ne faut pas oublier qu'il rentre dans les cales du navire avec les fers aux pieds, parce que cette fois, il est devenu un criminel d'État et qu'on n'en peut plus de tous ces débordements et de toutes ces manigances. C'est donc, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que le personnage a été galvanisé par le livre des merveilles de Marco Polo, il a rêvé de grands horizons, il a pensé qu'il découvrirait la route des Indes par l'ouest. Ça, c'est, après tout, c'était tout à fait légitime et normal, puisqu'on avait compris comment était organisé le globe. Ce qu'il ne pouvait pas imaginer, c'est qu'au milieu de l'océan, il rencontrerait un continent qui, lui, n'avait pour le moment pas été identifié par les Européens. Alors, faudrait parler des Vikings, faudrait parler de, etc., des pêcheurs basques qui, sans doute, eux, avaient eu des contacts avec le Nouveau Monde. Mais en tout cas, pour les Européens, dans la conscience générale de l'Occident de l'époque, il n'y avait rien avant les Indes. Et d'ailleurs, ce qui est fort, c'est que lorsqu'il va arriver à Hispaniola, lorsqu'il va passer le long des côtes de la Guadeloupe, d'Haïti aujourd'hui, etc., Christophe Colomb ne comprend pas qu'il est en train de découvrir un nouveau continent. Il mourra sans avoir su qu'il avait découvert ce qu'on appellera, sur le nom d'Amerigo Vespucci, l'Amérique. Il ne le sait même pas.
Ce qui est incroyable.
C'est incroyable. Hein. Il y a une forme, quasiment, on pourrait dire, une forme de cécité. C'est assez, à la fois beaucoup d'allant, beaucoup de volonté de d'abattre des montagnes, et puis derrière cela, une incapacité peut-être à voir le réel tel qu'il s'est présenté à lui. C'est fort, ça, non?
C'est très fort. Alors, il faut dire une chose à propos de Christophe Colomb, c'est, tu parlais de ses mensonges. Alors, tous les leaders ne le font pas, mais bien sûr, mais quand certains leaders sont passionnés, ont un objectif qui leur, vraiment, qui leur tient à cœur, plus fort que tout, on va dire, bah, parfois,
Il s'arrange avec la vérité.
Et parce qu'ils savent que ça va leur faire gagner des étapes. Alors, c'est pas vraiment à recommander. Mais on sait que dans l'histoire, certaines personnes ont pu faire ça, effectivement.
Alors, il a fait, lui, 4 voyages. Lorsqu'il rentre du 4e, il mourra à Valladolid. Il meurt en 1506, Christophe Colomb. Ça, on en est sûr. Là, au moins, il n'y a pas de doute comme sur les circonstances et la date de sa naissance. Mais lorsqu'il meurt, il est complètement ruiné et discrédité, disons les choses. C'est intéressant ce parallèle quasiment entre nos deux personnages d'aujourd'hui. Marco Polo qui meurt quasiment au milieu des rires et des moqueries et Christophe Colomb qui meurt dans la misère. Du point de vue du leadership, c'est pas idéal ça quand même.
Bah, c'est une bonne transition, c'est une bonne transition pour la conclusion.
Bah, oui.
Parce que en fait, on pourrait presque dire, j'avais mis Marco Polo enchanteur ou bonimenteur. Mais on pourrait l'appliquer aux deux, en réalité. Alors nous évoquions avec Marco Polo le thème de l'enchanteur, il l'était indiscutablement, mais beaucoup ont ou continue à voir en lui un bonimenteur. Alors, enchanteur, il n'y a aucun doute, c'est un charmeur, il séduit, il envoûte, littéralement. Mais là, il peut-être sa limite, parce que enchanteur, bah, des fois, ça rime avec ensorceleur. Et alors, pour autant, est-ce qu'il mentait? Alors, dès sa publication, le récit de Marco Polo, comme je le disais tout à l'heure, a suscité à la fois d'un côté de l'intérêt et puis du scepticisme. Beaucoup pensent qu'il a été totalement inventé, que Marco Polo est une sorte de bonimenteur, celui qui tient. Alors, bonimenteur, c'est celui qui tient des propos habiles et trompeurs. Mais d'autres pensent l'inverse. En particulier, ben, un qui est très connu, Baudelaire. Henri Youle, grand connaisseur de l'Asie, a retracé à la fin du 19e siècle, on va dire, le parcours de Marco Polo, et dira que finalement, il pense qu'il y avait une vraie authenticité dans ce voyage. Plus récemment, le voyageur Michael Yamashita a conclu que Marco avait été un témoin digne de foi. Et Philippe Ménard, professeur à la Sorbonne, nous dit pour sa part que nul ne peut inventer des chiffres pour étayer ses dires sans avoir eu au préalable les comptes financiers sous les yeux. Alors, certainement que ça nous donne des éléments pour dire que ce voyage n'a peut-être pas été totalement inventé, mais d'un autre côté, ben, la question reste ouverte et finalement, comme je vais le dire tout à l'heure, est-ce si important? Du reste, pour que Rusticello de Pise, ce fameux écrivain, puisse consigner le maximum de détails de ses voyages, il est dit que Marco Polo avait demandé à son père de lui faire parvenir ses carnets de voyage, ses carnets de notes, et que le même Rusticello dit au premier chapitre, ça c'est intéressant, il écrit, qu'il fait la distinction entre ce que Marco Polo a vu de ses propres yeux et ce qu'il a entendu avec ses oreilles, ce qui permettra, dit-il, au lecteur de distinguer le vrai du vraisemblable. C'est assez marrant. Alors certes, parfois, comme le dit Pierre Racine, il y a de l'exagération. Par exemple, il entend donner le beau rôle à la famille, je le cite, en lui attribuant l'invention des trébuchets, bien connus pourtant bien avant l'arrivée des polos en Chine. Voilà, donc il y a un peu d'imaginaire dans tout ça, mais qu'importe au fond. Car bien plus important, si on y réfléchit, cet homme au parcours qu'on peut dire exceptionnel en aura fait rêver plus d'un.
Et oui.
Franck, n'est-ce pas toujours aujourd'hui le plus important ?
À commencer par nous.
À commencer par nous.